franceinter.fr. Le 7-9, Pierre Veille, sur France Inter.
Elle estime que les religions doivent participer au débat public sur tous les sujets. C'est Delphine Horwiller. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rabbin au mouvement juif libéral, directrice de la rédaction du magazine Ténois. Vous avez publié l'année dernière un livre « Comment les rabbins font les enfants » chez Grasset. Aujourd'hui, dans Le Parisien, il y a les mots qui ont marqué l'année, analysés par ce journal. J'ai relevé attentat, radicalisation, populisme, burkini, primaire, migrant, ubérisation. Vous, 2016, quel est le mot que vous retenez ?
Pour 2016, je crois que j'utiliserai deux mots, en tout cas moi, qui m'ont marqué particulièrement. D'abord le mot deuil, tout simplement, parce qu'il y a eu beaucoup de deuils qu'il a fallu faire cette année. Des deuils, bien entendu, après les terribles attentats sur notre territoire et puis à l'échelle internationale. Et puis aussi des deuils de certaines idées, parce qu'il me semble que pour des gens qui sont nés comme moi dans les années 70, devenus adultes dans les années 90, il y a tout plein de choses qui nous paraissaient être des acquis, des évidences, l'Europe, la fin du populisme, de l'antisémitisme, l'évidence que le monde était capable d'intervenir en cas de crise majeure. Et puis cette année, finalement, on a eu l'impression que tout ça était peut-être faux, que finalement, avec le Brexit, avec l'arrivée de Trump, avec tous ces discours populistes ou de nostalgie, eh bien, il y avait beaucoup plus de deuil qu'il nous fallait faire. Et puis l'autre mot que je retiendrai, c'est peut-être justement celui-là, le mot de nostalgie. J'ai l'impression que la nostalgie a un peu le vent en poupe actuellement. On l'a vu dans les slogans à la fois du Brexit et l'élection de Trump. Make America Great Again, revenir à une grande Amérique, take back control, reprenons le contrôle. On a l'impression qu'il y a en ce moment une obsession d'un âge d'or révolu. Il faudrait se tourner vers un passé où à l'époque on avait encore des rêves de lendemain qui chantent, mais qu'aujourd'hui, à défaut de perspective, eh ben, on serait tous retournés vers la nostalgie. C'est en là et je trouve ça très très inquiétant.
Delphine Horwiller, vous parliez du mot deuil, un mot qui a marqué 2016. On pense bien sûr aux attentats qui ont été commis. Comment expliquez-vous que des gens se réfèrent à une religion et prônent la mort, se réfèrent à Dieu et prônent la mort des autres ?
Je crois que les certitudes menacent tous les systèmes de croyance et en premier lieu les religions. Et certains au cœur de ces religions ont l'impression qu'ils sont en possession d'une vérité et que cette vérité effectivement va de pair avec la négation de toute altérité, la possibilité pour l'autre même d'exister. Vous savez, nos textes, ils peuvent être interprétés avec des agendas politiques très différents. Il n'y a aucun doute que vous pouvez trouver dans le texte de quoi supporter les pires ou soutenir les pires tendances à la violence politique, à la violence contre toute forme d'altérité. Et de la même manière, on peut trouver dans les textes de quoi nourrir un débat de société, de quoi au contraire apporter une voix de conscience de l'altérité dans nos sociétés. Enfin, en réalité, c'est évident que certains vont s'abriter sur le texte, vont se cacher derrière le texte pour promouvoir ces agendas-là.
Mais est-ce que les textes religieux dans la Bible, dans le Coran, est-ce que ces textes sont ambigus sur le rapport aux autres religions, sur la violence légitime ou pas ?
Il y a effectivement, dans nos textes, c'est évident de quoi nourrir ce genre de lecture, parce qu'il y a un positionnement parfois dans nos textes, une naissance, une origine violente, une coupure par rapport à l'autre. On peut trouver sans aucun problème cela dans nos textes. Après, ça dépend quel est votre agenda de lecture. Vous savez, c'est la même chose que on pose souvent la question de la misogynie du texte. Est-ce que nos textes sont misogynes ? On peut trouver dans nos textes de quoi nourrir sans aucun problème la misogynie, en reconnaissant d'ailleurs tout l'héritage patriarcal qui est le leur. Mais on peut aussi y trouver des moyens, encore une fois, de penser la place de l'autre, des moyens de penser l'altérité. Je crois que ça dépend vraiment de la position du lecteur.
Repli identitaire, communautarisme, ce sont des mots qu'on a entendus en 2016 et qu'on va entendre évidemment en 2017 durant la campagne électorale. Pourquoi y a-t-il un repli identitaire ? À qui la faute ?
À qui la faute ? Alors, cette question, elle est effectivement centrale. On l'entend tout azimut aujourd'hui. Moi, quand on me parle de retour du religieux, par exemple, je pense que c'est une erreur. C'est pas le religieux n'a jamais disparu. Le religieux a toujours été là. Mais effectivement, on assiste aujourd'hui aux effets délétères de ce qu'a été le communautarisme dont on souffre depuis des années. La première marque du communautarisme consiste à dire hors de mon groupe, il n'y a point de salut. C'est-à-dire que il n'y a plus que mon groupe qui est fréquentable.
Mais pourquoi on en est arrivé là ?
On en est arrivé là parce qu'on a développé toutes ces dernières dernières années, on a consolidé ce communautarisme dont les faits et le fait que nos identités sont de plus en plus monolithiques, nos identités religieuses ou ethniques phagocytent tout notre être. Vous savez, il m'a semblé ces dernières années, j'ai eu l'occasion de le dire en bien des circonstances, que je n'étais plus soudain aux yeux de certains que juive, c'est-à-dire moi qui suis juive, française, mère de famille, parisienne, enfin mon identité est multiple, protéiforme, complexe et riche, et bien soudain l'effet de ce communautarisme c'est que mon identité religieuse, mon affiliation à mon groupe, à mon appartenance prend soudain toute la place, non seulement elle prend toute la place et phagocyte tout le reste, mais elle devient extrêmement monolithique. C'est comme si au cœur de mon groupe et de mon appartenance, eh bien il n'y avait plus qu'une façon d'être celui ou celle que je suis, qu'une façon par exemple de penser juif, de manger juif ou de voter juif. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement appauvrissant dans l'expérience de nos identités. Et c'est d'autant plus surprenant que, encore une fois, au cœur de nos textes, on trouve des messages très contraires à cela. Vous savez, les religions monothéistes, elles se réfèrent tous à un personnage qu'on appelle Abraham, père des croyants. Et le propre du parcours d'Abraham, c'est d'avoir été capable, à un moment donné, de rompre avec ses origines, c'est-à-dire de quitter le pays de sa naissance et d'amorcer une idée de l'identité qui n'est pas identique à sa naissance, une mise en chemin par rapport à son appartenance d'origine. Vous voyez, ça c'est un peu un message d'Abraham, mais de façon troublante, c'est pas celui-là qu'aujourd'hui de nombreuses voix religieuses retiennent, et au contraire, elles nous assignent à résidence dans nos identités.
Et ce qui explique que la religion devient un refuge pour beaucoup de jeunes qui se sentent exclus du monde, exclus sociaux, c'est un argument qui tient pour vous ?
Parce que la religion, parmi bien d'autres univers et bien d'autres systèmes, permet de reconstruire des frontières. Et je crois qu'aujourd'hui, certains sont en manque de frontières au cœur d'un monde qui, dans la mondialisation, leur semble étonnamment poreux. On a l'impression que finalement, puisque tout est flou, puisque tout est poreux, encore une fois, on revient à un discours du bon vieux temps. Vous savez, le bon vieux temps, l'âge d'or, où tout était clair, où chacun habitait chez soi, où on n'avait pas été, entre guillemets, pollué ou contaminé par la mondialisation, par le féminisme, un temps où les hommes étaient des hommes, un temps où les femmes étaient des femmes, un temps où la différence entre les uns et les autres était évidente. Finalement, il y a une certaine nostalgie facile de cette modalité explicative simpliste. Voilà, reconstruisons des barrières, et peut-être que parfois la religion sert à certains à reconstruire, à édifier à nouveau ces barrières du bon vieux temps pour faire face à la porosité du monde qui serait inquiétante.
Vous aimez commenter l'actualité diplomatique de ces derniers jours, c'est cette décision, ce vote au Conseil de sécurité des Nations Unies, les colonies israéliennes en Cisjordanie condamnées au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ce conflit israélo-palestinien semble finalement sans solution ? Est-ce parce qu'il a une dimension religieuse ? Je rappelle que les colons israéliens disent « Eh bien, c'est notre terre, c'est dans la Bible, c'est Dieu qui nous a donné cette terre ».
C'est un discours qu'on entend aujourd'hui de part et d'autre. D'abord, je ne sais pas si j'aime commenter ce débat, comme vous l'affirmiez il y a un instant, ce conflit. Je crois qu'on est tous aujourd'hui obligés d'y réagir, tant il déclenche les passions. Ce n'est pas nécessairement aux rabbins, je crois, de le faire et d'ajouter encore plus, justement, j'allais dire, leur grain de sel ou leur grain de texte à ce conflit qui est déjà incroyablement chargé.
Mais est-ce que c'est la dimension religieuse qui le rend ingérable ?
Je crois que la dimension religieuse y est de plus en plus présente. Et malheureusement, je crois que c'était pas autant le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, on assiste effectivement de part et d'autre à des discours nourris de messianisme, de certitudes religieuses, où certains, malheureusement, vont chercher les voix des rabbins pour confirmer ou conforter les prises de position et les agendas politiques des uns et des autres. Et je crois qu'il faut s'en méfier. Mais à la fois, je trouve que, et pour avoir lu ces derniers jours beaucoup la presse israélienne, elle parvient, je trouve, à exprimer finalement, face à cette résolution des Nations Unies, des avis très contraires. Et finalement, c'est le signe quand même d'une démocratie qui va plutôt bien de ce point de vue-là, puisqu'on a lu ces derniers jours dans la presse israélienne des avis très contraires sur cette question. Certains y voient effectivement la trahison de l'ONU ou d'Obama face à Israël, et d'autres, au contraire, regrettent que cette résolution soit intervenue trop tard. Encore une fois, on en parlait il y a un instant, mais peut-être trop tard dans l'histoire. Et je trouve que c'est un signe finalement de santé d'une société que d'être capable de tenir à distance le religieux pour engager un véritable débat politique sur cette question.
Delphine Horwiller, rabbin au mouvement juif libéral, est notre invitée ce matin. Restez avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. 01 45 24 7000, c'est interactif. Ce sera à partir de 9h20.